Alain Denève, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal Supérieur de Défense. Alors, la France et la Belgique ont signé mardi à Paris un accord dans la production de munitions de petit calibre et annoncé leur volonté d'approfondir leur partenariat stratégique dans l'armement terrestre. Pour commencer, grossièrement, en quoi consiste cet accord ?
Cet accord consiste à lancer une ligne de production commune entre la France et la Belgique pour, je dirais, combler le déficit que rencontre notamment la France dans la production de munitions de petit calibre. Cet accord s'inscrit également dans une dynamique plus large entre la France et la Belgique sur le volet, je dirais, terrestre militaire. Donc, il a aussi été question, par exemple, de la fourniture à la Belgique de véhicules de canons Caesar. Il a aussi été question, je dirais, de certaines fusions industrielles, en tout cas de rachat, notamment dans le domaine des véhicules blindés légers. Donc tout ça, cet accord sur les munitions fait partie d'une plus grande enveloppe. Mais il est vrai que la France, depuis plusieurs années, avait marqué, avait constaté la perte, entre guillemets, d'une capacité qui était celle de la production de munitions de petit calibre. Et cela fait depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, qu'il y avait une réflexion sur la manière de relancer cette capacité.
Du côté de la Belgique, c'est une bonne nouvelle ?
Oui. Pour la Belgique, en termes de tissu industriel, c'est une bonne nouvelle parce que, effectivement, la FNR Stahl, est internationalement reconnue pour, je dirais, la production de ce type de munitions, de ce type de produits un peu particuliers. C'est donc pour la FNR Stahl On est en plus dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, et notamment dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au niveau européen, de rapprocher la France et la Belgique autour de cette dynamique commune, de cette dynamique de coopération pour, combler les déficits qui ont été constatés dans certaines gammes d'armement depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est une coopération bilatérale qui s'inscrit dans quelque chose de plus large et qui, évidemment, comme toute coopération de ce type, doit être mutuellement bénéfique pour les deux partenaires.
Vous avez mentionné la FNR Stahl, c'est donc l'entreprise belge qui va fournir ces munitions de petit calibre. Elle a été choisie pour son savoir-faire plus que pour sa proximité géographique avec la France ?
Oui, c'est-à-dire que les choses vont se faire en deux temps. Là, tout d'abord, il y a une commande claire qui va être passée auprès de la FNR Stahl pour qu'elle produise elle-même depuis ces sites en Belgique, ces munitions de petit calibre, avant de parvenir à trouver un accord sur la création d'une ligne de production qui se situe en France. Et normalement, cette ligne de production française, va être définie vers la fin de l'été. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait en deux temps. Il y a d'abord la nécessité de parer au plus pressé, donc il faut déjà lancer quelque chose avant de réfléchir à l'évolution de ces lignes de production et donc à rapprocher quelque part cette ligne de production des besoins français. Mais il faut quand même toujours se dire que c'est parce qu'il y a les besoins ukrainiens en matière de munitions de petit calibre que, évidemment, la France se retrouve aussi avec des stocks en diminution qui rendent encore plus urgent, la création, le développement de ces lignes de production.
Alors, plus largement, la France et la Belgique sont liées depuis 2018 par un partenariat baptisé CAMO qui vise à doter leur armée de terre et de matériel terrestre semblable. On a beaucoup parlé, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine, de l'état de l'armée belge. Aujourd'hui, elle a besoin de la France pour se moderniser.
Je dirais que dans le domaine conventionnel, de toute façon, tous les pays, chaque pays européen, doit compter évidemment sur ses coopérations avec ses partenaires. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer un État seul capable, je dirais, d'affronter une menace conventionnelle russe, quelle qu'elle soit. Donc, l'échelle de pertinence aujourd'hui en matière de défense, elle est forcément nécessairement européenne. Elle ne peut pas être nationale. Je parle bien évidemment de la dimension conventionnelle. Je n'intègre pas là-dedans la dimension nucléaire qui est tout à fait particulière et spécifique. Donc, cette coopération européenne, elle est indispensable pour chaque État européen, et ces coopérations sont multiples, elles concernent différents domaines, maritimes, terrestres, aériens. On le voit à travers les déploiements, ne fût-ce que pour les missions, par exemple, de contrôle de l'espace aérien. Tout ça se fait évidemment avec, dans le cadre de partenariats, dans le cadre de jonctions de forces. Donc, voilà, c'est véritablement l'échelle de pertinence. Et il est quand même rassurant, quelque part, de voir que effectivement cette dynamique s'engage de manière très concrète aujourd'hui, certes un peu tardivement par rapport à peut-être ce qui aurait dû être préparé en amont, par rapport à, je dirais, à la menace russe, mais elle a le mérite aujourd'hui d'exister.
Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. N'est-il pas un peu trop tard d'avoir attendu que la Russie envahisse l'Ukraine et qu'elle menace notre territoire européen pour signer ce genre d'accord?
La prospective stratégique est toujours quelque chose de très difficile, parce qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect, enfin, je dirais en tout cas, il y a deux dimensions à prendre en compte lorsque l'on réfléchit sur l'état de préparation des forces armées. Il faut voir un peu d'où on vient et où on pense aller. Voir d'où on vient, ça consiste évidemment à, je dirais, tirer les enseignements des engagements antérieurs, des engagements militaires antérieurs. Et la prospective, c'est-à-dire voir où l'on va, c'est imaginer peut-être au départ de ces enseignements, mais pas que, vers quel type de conflictualité on se dirige. Et il peut y avoir un gap, il peut y avoir un fossé entre, d'une part, les enseignements que l'on tire des engagements antérieurs et ce qui se produit à l'avenir. Et c'est ça toute la difficulté. Ces dernières années, nos forces armées, les forces armées européennes d'une manière générale, elles ont été essentiellement engagées sur des théâtres extérieurs pour stabiliser des situations conflictuelles, on va dire de faible à moyenne intensité, même si cela n'exclut pas quand même je dirais des coups de chaud qu'il a fallu gérer. Mais je dirais que le dimensionnement à la fois des forces armées et à la fois de l'industrie était tout autre et répondait évidemment, je dirais, à était encore la conséquence des dividendes, de la période des dividendes de la paix. Il fallait adapter les forces armées à des engagements beaucoup plus, je dirais, calibrés pour les menaces contre-insurrectionnelles, contre le terrorisme, etc. Et dans le même temps, c'est vrai que s'est développé en Europe, voilà, les bases d'une conflictualité plus classique que l'on a davantage connue dans un lointain passé, qui ressurgit aujourd'hui. Et il n'est pas toujours évident pour les forces armées de savoir, voilà, il y a toujours cette peur de reproduire quelque part la dernière guerre, celle qui ne va pas se reproduire. Et c'est à cela que les forces armées sont en permanence confrontés. Donc, oui, on peut dire d'une certaine façon que cela a mis du temps avant que l'on réalise, je dirais, la dimension exacte de la menace russe et sa capacité de nuisance, et peut-être au-delà même de sa capacité de nuisance. Mais dans le même temps, il fallait répondre, bon, voilà, à des besoins, je dirais, différents en matière stratégique. Pour l'industrie aussi, ça a été un problème. Et ça pose toujours un problème aujourd'hui pour l'industrie. L'industrie, à partir du début, de la fin des années 90 et du début des années 2000, on lui avait envoyé un message très clair. Il faut réduire les lignes de production, il faut réduire les cadences, les chaînes de production ne peuvent plus être celles de la guerre froide. L'industrie s'est pliée à cette demande, elle a fait les reconsolidations nécessaires, les réductions de format qui s'imposaient, et elle a réfléchi les armements du futur, entre guillemets, sur de nouvelles bases, et notamment sur la base des engagements qui étaient celles des forces armées de l'époque, donc ex-Yougoslavie, Rwanda, Congo, enfin voilà, on les connaît. Aujourd'hui, on lui demande de redéfinir des lignes de production de plus grande dimension, avec un rythme de production plus intense, pour répondre le plus vite possible à l'évolution du contexte stratégique. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite des adaptations structurelles majeures. Et les industriels sont aussi méfiants parce qu'ils ne veulent pas que d'ici 3 ou 4 ans, on leur dise à nouveau de devoir réduire leur format de production. Donc on est vraiment dans cette période, même si on peut avoir l'impression que la menace est claire, elle est posée, certes, c'est vrai, mais en termes industriels, évidemment, le tempo, la temporalité, le temps, la notion de temps n'est pas du tout la même chose. Donc c'est tout ça qu'il faut réconcilier et c'est pas toujours évident.
Mmh. Alain Deneuve, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal Supérieur de Défense. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir. Merci.